Campus Lille, 22h.
Chrysanthème, c'est tendance, c'est tendance, c'est tendance.
Bienvenue, c'est l'heure de Chrysanthème sur Radio Campus 106,6. Tous les mardis de 22h à 23h. C'était pas...
Thank you. Nous sommes sur les ondes de Radio Campus Lille. Bonsoir les criseux, les criseuses, les campusiens, les campusiennes. Et bienvenue dans notre 250e de Chrysanthème. Et ce soir, une 250e, c'est un chiffre rond, ça fait une hors-série, c'est très bien. Ce soir, on va reparler de la Libération. Le 22 mai dernier, on avait reçu Quentin, qui faisait partie, qui fait toujours partie d'ailleurs, du Jeep Club des Flandres, à l'occasion des commémorations au mois de mai des 80 ans de la Libération d'Attiche, le village à côté de Seclin. Et on avait fait une fort belle émission, ma foi. Et ce soir, nous avons la joie de recevoir à nouveau Quentin. Voilà, merci Quentin. Quentin d'être là ce soir à nouveau en notre compagnie.
Merci à toi.
Attends, je t'ai pas allumé ton micro qu'on puisse entendre ta belle voix, vas-y.
Merci d'avoir pensé à nous inviter à nouveau et pour aborder un deuxième épisode de nos commémorations vivantes. On y reviendra juste après.
Bah oui, parce qu'après, il y a les 15, le 14 et le 15 juin. Ouais. Et il y en a d'autres en septembre. On verra Exactement. Ça après au fur et à mesure de l'émission. Nous avons Jean-Marc qui est là ce soir. Bonsoir Jean-Marc.
Et bonsoir.
Et donc toi, tu fais partie aussi du Jeep Club des Flandres.
Tout à fait.
Donc camarade de Quentin, de Jeep, de quel véhicule toi?
Jeep.
Jeep aussi.
Et ouais.
Dans le Jeep Club des Flandres, c'est original, tiens.
Et voilà.
Je plaisante, mais c'était fort agréable ce qu'on voit aussi en Jeep, en costume d'époque et tout, on en reparlera. Et nous avons aussi ce soir Jérôme, qui est là avec nous ce soir et qui était figurant dans le spectacle, donc à Attiche, le son et lumière qui était organisé à Attiche pour les 80 ans de la Libération. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Yann. Merci de votre invitation.
Eh bah, ben écoute, tu me vouvoies à l'antenne, c'est bien, c'est classe.
Oui, à l'antenne,
ouais,
tout le
monde. Ouais. Ça
enfin,
fait bien.
Tout le monde.
Non, voilà, mais en tout cas, donc une belle émission ce soir avec donc des gens qui font partie du J-Club de France, du J-Club des Flandres, pardon, avec le côté reconstitution, commémoration, et puis ça rigole pas, ce qui est un label à tenir, et d'être à l'exactitude historique, et on en reparlera aussi, je pense, et d'avoir quelqu'un qui est monté sur scène, donc, et moi aussi également, mais on va laisser parler Jérôme. Ça c'était une belle expérience aussi également pour ce village d'Attiche.
Oui, c'était vraiment une très belle expérience. Déjà, bon, il y a évidemment le devoir de mémoire, qui est très important, forcément, faut pas oublier. Et c'est vrai que moi, en plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une telle effervescence à Attiche, faut dire, depuis...
Ah bah moi, de mémoire d'Attichois, ouais. Pour moi, tout le village était dehors. Hein,
oui, voilà, c'est ça, quoi. Et c'est vrai que c'était une belle expérience. Je suis déjà un passionné de cinéma, et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être comédien, donc j'ai toute proportion gardée, évidemment, un petit peu réalisé mon rêve de gosse, je joue un peu la comédie. Et c'était un très beau spectacle, vraiment, tous les gens m'ont dit que c'était super. Tous les spectateurs, les retours m'ont dit qu'ils étaient très, très émus.
Eh ben voilà, t'as fait des photos, des autographes, tout ça?
Oui, voilà. Oui, voilà.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu pour tout le monde. On reste ensemble jusqu'à 23h pour cette 250e de Chrysanthème. On va vite fait quand même présenter les morceaux qu'on a écoutés en début d'émission. Donc on a commencé avec les Ramones, avec Blitzkrieg Bop, voilà, en live en 91. Les Blitzkrieg Bop, est-ce que je viens d'expliquer pourquoi j'ai mis Blitzkrieg Bop dans une émission consacrée à la Seconde Guerre mondiale? Je ne sais pas. Il y a des chances que le rapport au Blitzkrieg soit là pour le début d'émission, c'est bien. Pour le début d'émission, le Blitzkrieg Bop, c'est chronologiquement, on est bon. Musicalement, je veux dire. Voilà. Sachant que le Blitzkrieg Bop, évidemment, les Ramones ne chantent pas du tout le Blitzkrieg hein, là-dedans. C'est juste un rapport plus ou moins malsain, plutôt avec la horde de fans dans les concerts de rock qui foutent le bazar. Voilà, parce que les Ramones, c'est toujours très complexe. Ils étaient quatre, il y en a deux qui étaient démocrates, il y en a deux qui étaient républicains. Il y en a un qui était juif, il y en a un d'autre qui avait une fascination morbide pour tout ce qui avait ressemblé de près ou de loin à une croix nazie par provocation punk débile. Ça devait être une sacrée ambiance, au répète, général. Ça
devait être. Alors, quand même, pour faire la part des choses, Yann, Blitzkrieg, hein, Blitzkrieg, oui. Dans la traduction, c'est de l'allemand, évidemment, Blitz et Krieg, donc guerre éclair, et qui fait un clin d'œil à la technique utilisée par Heinz Guderian à l'époque, qui consistait à mettre en place une nouveauté technique dans la stratégie militaire, qui consistait à envoyer un rouleau compresseur, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la guerre moderne qu'on associait l'aviation à l'artillerie et aux fantassins, les trois réunis étant un rouleau compresseur qui permettait d'éradiquer tout ce qu'il y avait devant. Et c'est comme ça que la Pologne va tenir 2 jours, que la Belgique va tenir 17 jours et que les Français vont pas tenir beaucoup non plus devant ce rouleau compresseur.
C'est ça, en une vie, en
58 jours. Là,
France, en quelques mois, voilà, voilà. C'est plié. Quoi.
La Blitzkrieg, voilà, quand même, voilà, c'était important de dire pourquoi Blitzkrieg. Voilà, c'est pas
voilà, mais voilà, j'allais soit le faire, soit je comptais sur un expert pour le faire. Mais voilà, merci beaucoup.
Ah non, mais c'est...
Parce qu'évidemment, moi je m'occupe du côté musical, tu vois.
T'as bien fait.
Je te sens plus pédagogue que moi, parce que moi je vais m'emmêler dans les prononciations vaseuses déjà, même si je sais ce que c'est, et voilà. Et on enchaînait juste après avec Reventura et ses collégiens, parce qu'il y avait la chorale qui allait avec On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried, sortie en 1939, sachant que c'est une chanson anglaise, à la base, sortie en 39, et que bah, d'ailleurs on entend à la fin de la chanson, il y a des chœurs anglais et tout qui chantent, parce que ça a été chanté quasiment directement en français. Hein. Ça a été écrit en anglais, mais c'est Reventura qui s'est approprié compris le truc. Et ça a plutôt bien marché aussi. Ça a plutôt bien marché. En chanson.
Voilà. Et là aussi, sur le plan historique, pour éclairer le côté judicieux de tes choix, la ligne Siegfried, c'est le pendant de la ligne Maginot, voilà, puisque les Français avaient déployé un système de fortification sur toute la frontière, grosso modo, du nord jusqu'à l'Italie, voilà. Même s'il y en a beaucoup plus chez nous qu'ailleurs, et en pensant qu'on aurait une guerre de position comme en 14 d'ailleurs. Et avec une ligne Maginot quand même qui a été conçue de façon un petit peu spéciale, puisqu'on s'est rendu compte qu'elle avait un gros défaut, en gros, hein, c'est que c'est qu'elle tirait dans un sens.
Oui, ça c'est con.
Et
hein.
Pas dans l'autre.
Il faut qu'on ait passé l'autre côté.
Et ils sont passés par les Ardennes en faisant un gros trou dans le maillage. Et quand ils sont arrivés derrière la ligne Maginot, il y avait très peu d'azimuts de tir potentiels. Et cette ligne Siegfried, c'était l'équivalent de la ligne Maginot pour défendre la frontière allemande.
Voilà. Et la ligne Siegfried qui était construite, commencée en 1916-1917, et qui a été terminée après pour la Seconde Guerre mondiale, juste avant la Seconde Guerre mondiale, par les Allemands. Par contre, ce que je sais, c'est que la ligne Maginot, c'est du nom du ministre qui l'a fait faire. Si je dis pas de conneries. Par contre, Siegfried, j'ai pas trouvé, à part le légendaire Siegfried dans les mythologies germaniques, évidemment, mais j'ai pas trouvé pourquoi ouais, Siegfried.
C'est vrai que tu me poses une colle, parce que, hormis décomposer le mot en prenant Siegen, mais bon, j'ai pas l'info.
Non. Ouais, non, mais là, je sais pas non plus. Mais oui, en tout cas, oui, ligne fortifiée qui tenait le coup, et là, il voulait aller, Réventura voulait prendre son linge dessus. Évidemment, le côté optimiste, la fleur au fusil, tout ça.
Et le clin d'œil 14, parce qu'on pensait qu'on aurait faire la ligne Siegfried, pendre son linge, c'était en gros. On est reparti pour 4 ans de guerre de position et 3 mètres de tranchée gagnée, 3 mètres de tranchée perdue.
Il y a même l'ironie du truc, hein, on part la fleur au fusil comme en 14, et comme en 14, on va galérer 5 ans. Hein, c'est, enfin, 4 et 5 ans, hein, on va pas finir ça en 6 mois.
Pendant tout ce temps de l'opposition de la ligne Siegfried à la ligne Maginot, c'est ce qu'on va appeler la Funny War, et qui est en gros la drôle de guerre.
Ce qu'on a appelé la drôle de guerre chez nous.
Et pour dire, on envoyait les soldats qui disaient « je vais prendre un tour de garde pendant 3 mois et je vais rentrer à la maison ».
On se regarde de chaque côté du Rhin, voilà.
Sauf qu'un jour, ils ont dit « nous, on va passer à l'action » et on n'a rien vu venir. Voilà.
Je sais plus si c'est les Français ou les Allemands qui ont commencé avec les Français sont partis en Rhénanie, vite fait, faire chier un peu le monde. Ils ont fait une petite percée au début. Si, on a fait une offensive au début.
Ouais, alors
qu'on a réussi et inexplicablement, non, revenez.
Ouais, alors le souci, c'est qu'on n'a pas parié sur la mécanique.
L'éternel.
C'est De Gaulle qui avait prôné, le colonel De Gaulle, qui avait prôné cette option, qui s'était fait envoyer dans le mur par, à l'époque, le ministre de la guerre. On disait ça avant. Et en gros, quand ils ont compris qu'en face, Guderian avait développé une arme mécanique extrêmement puissante, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas un train de retard, mais 3 TGV, quoi.
C'est ça, 4 régiments d'infanterie et d'artillerie de retard.
Quand on voit le renforcement de la Pologne, on a des photos qu'on utilise d'ailleurs dans les écoles. Ouais. On a des blindés qui chargent des chevaux.
Des chevaux en Pologne, oui, bien sûr.
Ça dure pas longtemps, évidemment.
Non, évidemment, oui. Mais ça, c'est sûr. Donc, voilà, c'est bien. Un bon petit résumé du début, une bonne synthèse de ce début de guerre. Mmh. Voilà. Soyons de bonne humeur ce soir.
Voilà. Ouais,
mais il n'y a pas de raison. On peut apprendre de bonne humeur aussi. Et c'est ça aussi le devoir de mémoire. Parce que si on est trop triste et chiant, ça passe pas. Et on se débrouille. Donc, moi, je fais le con. Et toi, tu rétablis l'équilibre.
En restant. En restant quand même de bonne humeur.
Évidemment.
De faire des clins d'œil sur justement ces relations entre ces titres qui sont qui peuvent paraître pour certains anodins, mais qui justifient ton choix.
C'est un peu le principe. On essaie quand même de rester dans le thème de l'émission. Mmh. Et du fait, on va parler du fond sonore. J'ai dit que les fonds sonores, comme d'habitude, si vous écoutez Chrysanthème, vous savez que les fonds sonores sont en rapport avec ce dont on parle. Et donc je vais monter un peu le son et on va voir si y a des fans de cinéma autour de la table, s'ils vont reconnaître. Il y en a un morceau de ce film-là, pas cette musique-là, mais il y en a dans le spectacle.
L'armée des ombres.
Ouais, bien joué, je m'en doutais.
L'armée des ombres, avec un clin d'œil à la résistance française, et avec une histoire tirée d'une histoire vraie, l'armée des ombres.
L'armée des ombres, oui, parce que écrit en 1943, le roman.
Avec la merveilleuse Simone Signoret, et des faits d'ailleurs dont je me suis inspiré parfois dans certains films que j'ai tournés, notamment dans le nord de la tourmente avec la tentative d'extraction d'un blessé dans les géoles de la Gestapo, mais qui est plus en état de sortir.
Effectivement, donc il y a un passage de cette musique aussi dans le spectacle.
Avec Lino Ventura qui est.
Lino Ventura, Simone Signoret, il y a Jean-Pierre Cassel qui joue également dedans.
Qui est jeune et qui. Oui, Jean-Pierre Cassel.
Il y a Serge Reggiani. Également, qui joue un petit rôle dans ce film.
Qui est un coiffeur et qui va très rapidement rasé Ventura qui s'est enfui dans la rue et qui est suivi par les Allemands. Et il va, de façon très très, très très insipide mais significative, lui procurer une veste différente pour qu'il puisse sortir sans être repéré en reprenant sa marche nocturne dans les rues de Paris.
Très bon film, L'Armée des Ombres, très très bien. Et donc je disais, oui, le roman a été écrit en 1943 par Joseph Kessel, Le Lion, tout ça, c'est le même. Le Chant des Partisans aussi, quelque part, en 1943, ce qui est un peu surprenant, mais il a écrit à Alger. Évidemment, c'était pas en France, et le roman était un petit peu parachuté en France, mais valait mieux pas qu'on le trouve chez vous. C'était pas une bonne idée, évidemment. Et dont ce film, fait par Jean-Pierre Melville, si j'ai pas de bêtises,
Melville,
en,
ouais,
en 69, donc très très bon film, évidemment, qui relate la vie des résistants en France, et d'après le roman, donc en 43, donc
Et on a eu beaucoup de chance, alors ça a précédé quelque peu Attiche. Il y a eu un festival du cinéma. À Lers. Et ils ont programmé quelques films qui pour le coup ne passaient plus au cinéma aujourd'hui. Et j'aurais jamais pensé, moi qui suis né après, j'aurais jamais pensé un jour pouvoir voir ce film au cinéma. Il a été programmé à Lers l'an passé. Donc en version
restaurée.
Avec, oui, il y a une version restaurée il n'y a pas si longtemps.
Voilà, ouais. C'est ça. Et je me suis dit, bon, bien sûr, on le connaît tous, mais c'est pas pareil sur un grand écran.
Non, bah, non ça, le cinéma et la télé, c'est pas pareil.
Bien sûr.
Il y a mieux sur grand écran, c'est autre chose.
La charge émotionnelle est différente.
C'est effectivement. Et donc il y a une belle part, je vais enchaîner un peu avec les camarades aussi quand même, parce qu'il y a une belle part, dont tu le disais, à la résistance aussi dans le spectacle que tu montes et qui change suivant les villages et les commandes, je pense, des mairies qui te demandent de monter un spectacle. Et moi j'ai eu l'occasion de me faire fusiller. Alors je sais pas si c'était en tant qu'otage ou résistant, ça c'était pas dit dans mon background, mais je vais me dire c'était pour être résistant. Voilà, ça fait classe.
C'était. Alors le clin d'œil pour le coup, pas très sympathique, mais l'analogie qui est faite dans cette scène, qui c'est la scène numéro 13 du spectacle, ouais. elle rappelle, et dans le commentaire d'interscène que tu n'as pas forcément pu entendre parce que tu es
en coulisses,
en préparation, ouais. Mais le clin d'œil d'interscène, on évoque notamment les représailles sur les populations qui ont été les exactions de la division d'Asreich au Radour-sur-Glane, pas loin d'ici le massacre d'Ascq,
ouais.
toutes ces représailles sur la population qui, de près ou de loin, devenaient des empêcheurs de tourner en rond pour une armée allemande en débâcle et qui faisait appel à ses renforts les plus, j'ai envie de dire, les plus musclés, puisque c'est les divisions SS qui sont remontées du sud, hein,
ouais.
Et qui, sur leur passage, ont fait beaucoup de dégâts, notamment ces rafles et ces fusillades à tir larigot, j'ai envie de dire, pour des motifs assez futiles. Hein.
Bah effectivement, ouais. De toute façon, la guerre, que voulez-vous. Et en plus, quand il y a des barbares en face qui ne savent même pas respecter, comment on s'étripe de manière civilisée? Même ça, ils ne savaient pas le faire. C'est quand même quelque chose. Et donc, on a parlé un petit peu du spectacle. C'est vrai que c'est un magnifique spectacle que vous montez. Et des différentes scènes, voilà, suivant vous adapter. J'ai vu qu'à l'Équin, c'était différentes scénettes au cours de la journée, je crois, qui vont se dérouler. Et donc, avec un très bon. Alors, professionnalisme, je ne sais pas ce que c'est, une association. Mais en tout cas, l'équivalent, on va dire, pour une association, parce que la reconstitution est là au niveau des uniformes, au niveau des costumes. Quand il y a des figurants qui sont demandés dans la population locale, on demande aussi que les habits soient cohérents avec l'époque, ce qui renforce l'immersion aussi dans le spectacle. On en avait parlé le 22 mai ensemble. Et ça donne vraiment un spectacle très très bien avec des véhicules qui déboulent sur scène, des gens en uniforme, des artificiers, je précise, ceux qui tirent vraiment avec des armes et tout ça. Ils savent ce qu'ils font, c'est des gens avec les autorisations pour. Donc ça fait de la fausse bataille sur scène, ça fait de l'attentat de la résistance. Il y a de la scène de la vie quotidienne, il y a des prises d'otages, il y a l'invasion, les Allemands arrivent et forcent les populations à participer. C'est vraiment quelque chose de prenant et d'immersif, donc je ne peux que vous conseiller d'assister à ce genre de spectacle. Donc déjà il y en a les 14 et 15 juin à l'ECA, avec des petites scénettes dans la journée, donc n'hésitez pas déjà à aller voir ça. Et puis normalement il y a un DVD qui sort généralement, donc comme Attiche, il y aura un DVD qui va sortir également de ce spectacle, uniquement du spectacle, on parle pas encore du défilé qu'il y a eu et puis de tout ce qu'il y a eu.
C'est dans les bonus.
Il y aura des bonus dans le DVD.
Voilà, okay. Et en plus il y a des bonus, donc ça fait un super souvenir aussi pour les gens et pour ce devoir de mémoire, parce que ce spectacle, comme tu l'as dit, change de lieu en lieu et donc s'adapter aux témoignages locaux et à ce genre de choses.
Chaque édition donne lieu à un DVD qui est unique, qui devient la propriété de la commune qui nous a entre guillemets mandaté pour mettre en place les festivités. Et on y retrouve l'intégralité du spectacle et des commentaires d'interscène qui font l'objet de 10 mois de recherche et de vérification auprès des archives nationales, entre autres. Et puis, on y retrouve des bonus, donc avec le défilé, le reportage sur le camp, la journée des scolaires, et tout le monde s'y retrouve. Et c'est pour ça que les gens qui nous suivent s'y retrouvent, parce qu'ils sont récompensés. Notre deal à nous, c'est que chacun soit représenté dans les bonus et dans le spectacle, et qu'on n'oublie personne. Voilà, ça fait partie de la charte.
Le devoir de mémoire, c'est ça aussi. C'est ouais. pas seulement se souvenir de ce qui s'est passé il y a 80 ans, mais c'est vivre l'histoire, je pense, et la commémorer chaque jour qui se fait, et de pouvoir le transmettre à chaque fois et à travers toutes les personnes et toutes les générations. Pff, je vais me calmer, parce que j'ai parlé bien là, et ça fait mal. C'est pas facile. Jean-Marc, tu rigoles, mais toi, du fait, tu fais partie du Jeep Club de Flandre, donc ça veut dire que tu étais en uniforme avec un véhicule, Tiche.
Alors moi j'étais en civil aussi dans le spectacle.
Ah, après, et aussi dans le spectacle, un voilà. petit cumulard également, voilà.
Voilà, c'est ça. Bah, je me suis fait fusiller avec toi d'ailleurs.
Ah, mais c'est vrai, mais ouais. voilà. Ouais. Ça crée des liens, hein. Ça crée des liens. Il y avait Romu qui devait être là ce soir, mais qui n'a pas plu, mais qui a été fusillé avec moi aussi ce soir-là.
Ça m'a brisé le cœur quand vous êtes fait fusiller.
Oh là là, c'est beau, c'est mignon.
Mais on ressuscite. Hein.
Et
d'ailleurs fait, tous les ans. à chaque spectacle.
Et ça, c'est beau. Et donc, ça fait longtemps que tu fais partie du Jeep Club des Flandres ?
Alors, depuis 2011, depuis justement, quand ils sont intervenus sur l'Équin, sur la municipalité de l'Équin, le son et lumière qui avait été fait en 2011. J'étais commerçant à l'époque, parce que je ne suis plus, je suis en retraite. Et donc, on avait créé avec l'association des commerçants...
Du marché noir avec du trafic de tickets de rationnement, c'est pas bien.
Et grâce à ça, j'ai pu gagner la meilleure vitrine de la ville.
D'accord.
Donc, j'ai été récompensé systématiquement. Et puis après, la suite a poursuivi que j'ai pu rentrer dans le club et que je ne quitte plus depuis cette époque.
Eh ben, ça fait pas mal de sorties, pas mal de week-ends bien occupés.
Ça fait quand même pas mal de choses.
Non, en même temps, c'est quand même un plaisir aussi. Enfin, moi qui ai eu la chance de pouvoir participer en tant que glandeur sur une banquette arrière en uniforme sur une Jeep. Rien que le fait de pouvoir voir les enfants, avoir les yeux émerveillés quand même, puis demander des explications parfois à les gens qui me posent des questions, c'est quand même un moment à transmettre, de transmission excellent aussi à ce moment-là, parce qu'on n'est pas dans une salle de classe, on n'est pas dans un musée. Si, un peu à ciel ouvert, mais vivant. C'est pas des mannequins, il y a des gens qui sont vraiment là pour répondre aux questions, parce que faut le dire aussi au Jeep Club de Flandre et les associations que j'ai demandé de citer aussi, s'il te plaît Quentin, parce que je cite toujours le Jeep Club de Flandre, mais j'en oublie plein.
Ouais, alors exercice de style, parce que ouais. si j'en oublie un, je vais me faire arracher les
c'est
les
pour
oreilles,
ça que je prends pas la responsabilité.
On a les Yankees qui sont basés
ils sont armés les mecs
qui sont sur l'herbe, mais qui sont plutôt experts dans la capacité d'exposer des choses très 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 détaillées, de la salle de transmission, du bloc opératoire, toutes ces choses là on a le Black Bull qui est une association belge qui nous suit depuis très longtemps et qui a cette particularité de remettre en état de fonctionnement des appareils qui font plus de 40 tonnes.
Oui, non, c'est un peu ceux qui font de la dentelle dans le groupe, j'ai envie de dire.
Ouais, ouais.
Des boules avec des chars, quoi. C'est, pas...
ça, c'est ça. Mais c'est magique de voir que après 2 ou 3 ans de travail sur une épave avec 800 trous dans la tourelle, parce que ce sont des chars qui servaient de cible sur des terrains d'aviation, etc. On arrive à refaire fonctionner un appareil et avec ses pièces d'origine, son moteur d'origine, la refabrication d'origine. Voilà. On a aussi Passion Histoire 44 qui était Lambersart, qui fait un très beau travail aussi sur le plan de l'accueil des scolaires avec le poste de police militaire qui explique un peu comment ça fonctionnait à l'époque et qui est plutôt orienté dans l'expertise de la pyrotechnie et qui nous fait qui a fait sauter les poteaux et puis qui a fait
qui sont nos artificiers sur la scène.
Exactement.
Le bouton rouge sur le fil rouge.
Voilà, c'est ça.
On a le GS Memory qui nous vient de Cambrai et qui est un partenaire de très très longue date qui a vocation à être plutôt expert lui dans tout ce qui est rôle allemand et de résistant. En fait, c'est curieux, mais c'est comme ça. Mais qu'on voit défiler le lendemain en GIs sans difficulté, mais ils ont vraiment cette capacité à durer dans le temps en jouant le rôle et en faisant attention à plein de choses, parce que quand on porte un uniforme de l'Axe, on est plus que d'autres exposés à une exemplarité.
C'est vrai que c'est fou, parce que ceux qui jouent les Allemands, enfin, il y a vraiment un jeu d'acteur, parce qu'il faut tenir le rôle du méchant, enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment jouer le méchant.
Il faut être méchant et il faut aussi être, on est là aussi pour délivrer des messages, mais pour aussi,
être crédible, il faut que ce soit crédible.
Tout à fait. Alors, si j'ai pas oublié grand monde, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai Brother & Co, qui nous viennent juste à côté de Marchienne et qui, eux, sont plutôt expert de l'équipement collectif. Et d'ailleurs, le patron qui s'appelle Bruno Driensens est le général allemand qui sort de sa Mercedes pendant le spectacle et qui se fait tirer dessus pendant l'attentat. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a une petite association qui s'est jointe à nous pour la première fois, que nous ne connaissions pas, qui s'appelle la Petite Famille. Et c'est vraiment le cas, c'est une petite famille, c'est un couple avec leur garçon qui a une vingtaine d'années et qui ont choisi d'avoir un display assez exceptionnel qui remet en place les conditions de vie des civils à l'époque. Et c'est assez fun à visiter parce qu'ils ont, voilà, ils ont 30 mètres carrés d'exposition, mais ça va du poste à lampe en passant par le mobilier d'époque et puis les petites mains de la résistance qui fabriquent des clous spécifiques achetés sur les rues devant les pneus des Allemands. Ça passe aussi par la fabrication d'explosifs d'artisanat.
Artisanal, maison, voilà. Ouais.
Et c'était riche, je les connaissais pas, mais ils ont fait une très belle impression et je pense qu'ils nous suivront sur d'autres expos. Le MVCG du Hainaut qui nous vient de la région de Valenciennes et qui a capacité à nous apporter des véhicules un petit peu spécifiques qu'on n'a pas tous les jours avec nous. Je parle des GMC, parle des Kubelwagen, Sidecar. Et puis, évidemment, le Jeep Club des Flandres avec cette capacité à coordonner et qui est toujours assez lourd dans la représentation puisque on représente à peu de choses près 85 personnes en état de fonctionnement et tous les âges, hein, puisque la plus jeune aujourd'hui, c'est Jeanne, qui doit avoir 6-7 ans.
6-7 ans, Jeanne.
Et la plus âgée aujourd'hui, c'est Nicole, qui doit avoir 84, me semble-t-il. Enfin bon, je sais qu'elle nous écoute, donc elle ne m'en veuille pas si j'ai un petit peu dérapé sur l'âge, mais en tout cas, j'ai des anciens qui je tiens beaucoup. Ils se reconnaîtront, hein, Marie-Thérèse, Huguette, Nicole, Bernard, notre curé. Jean-Claude, ils sont plusieurs, hein. Mais c'est pour connaître l'amplitude de ce qu'on met sur scène et de ces familles qui se consacrent au devoir de mémoire.
Oui, parce que ça fait un sacré nombre de figurants, Monsieur Jérôme qui était sur scène. On peut se dire qu'on était un paquet de gens quand même, nous, en tant que figurants amateurs déjà.
Ouais, 68 d'affiches, je crois.
Ouais, c'est un très beau score. C'était pas parti gagnant.
Ouais. Hein.
Alors juste pour terminer, parce que je voudrais pas me faire alpaguer, mais on avait aussi OKW qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est officier allemand, avec une exposition un petit peu aussi pointue et qui porte aussi un lourd tribut que de devoir s'illustrer pendant le spectacle avec la prise de parole en public, avec l'ordonnancement qui vient réquisitionner la mairie, ouais, et qui vient faire tomber les oriflammes nazis le long des façades.
Ça, c'est quelque chose aussi à voir dans le spectacle, les oriflammes nazis qui tombent sur les mairies sur la mairie reconstituée pour le spectacle. C'est... Voilà. Ça fait quelque chose aussi de voir ça, pas dans le bon sens, hein, évidemment. Ça,
bien sûr, ouais.
Évidemment.
Le Rétro Club de M, qui est une association que l'on connaît depuis longtemps, mais qui en fait nous a rejoint l'an passé à M, et qui se produit et qui nous permet d'avoir un peu plus de diversité dans les véhicules civils, parce que on est plutôt pointu sur le véhicule militaire tout confondu, mais le véhicule civil, ça reste quand même un artifice qui a toute sa place dans l'époque, oui, et dont on ne pourrait pas se passer dans la mise en scène.
Rien pour parler des mythiques tractions qui passent sur scène,
On a du Renault, on a du Peugeot, voilà, on a du Citroën, mais tout est bon, hein, tout est dans les bonnes dates. Hein. Et puis pour terminer, le Pevel Pipe Band, qui est une association de Capelle en Pevel, il me semble-t-il. Ou Mons-en-Pevel.
Mons-en-Pevel.
Et qui a cette capacité à nous fournir des cornemusiers,
ouais,
qui apportent un cachet plutôt hors du commun et toujours très apprécié, parce que c'est un instrument qui fige, qui est parlant et qui est utilisé autant dans les temps commémoratifs que quand on va commémorer la prise du Pegasus Bridge. Avec Bill Millin qui va jouer de la cornemuse devant Lord Lovat.
Il y a la fameuse scène de Lord Lovat et sa cornemuse.
Et Bill Millin a vraiment fait ça et à plusieurs reprises. Il s'est jamais fait tirer dessus.
Ouais.
Faut savoir que
les Allemands étaient sciés, je crois. Ils se sont dit, c'est quoi ce taré?
Alors la légende dit, mais c'est pas qu'une légende. Elle dit que quand on tuer un Doom, hein, tuer un fou,
ouais,
ça porte malheur. Et les gens se disaient, pour marcher devant avec une cornemuse sans arme et franchir les zones de combat en jouant de la cornus, il faut être un peu fou.
Et même en le sachant, comment ça s'est passé, ça reste quand même complètement fou. Hein,
ça reste fou, parce que Bill Mead n'a jamais pris une cartouche. Hein, et il est allé jusqu'au bout. Il est revenu de nombreuses fois en Normandie. Il a fait don de sa cornemuse. Elle est actuellement exposée, à Pegasus Bridge. Ouais, elle est exposée dans le musée Pegasus. Et avec une dédicace de Bill Mead qui est revenu là pendant des années, tout comme de nombreux acteurs, enfin acteurs des vrais, hein,
ouais.
du débarquement. Si je prends John Steele, oui. qui est tombé sur le musée de Sainte-Mère.
Sur l'église.
Non, sur l'église.
Sur l'église. Oui. Il y a toujours son mannequin qui est là.
Alors attention, parce que voilà, je vais me faire engueuler par les organisateurs de Sainte-Marie-Église, mais le mannequin, il n'est pas du bon côté de l'église.
Hein. Oui, voilà.
Il est du côté où les gens peuvent se garer.
On peut mieux le voir.
Voilà. En vérité, il est tombé de l'autre côté, mais ça, c'est pas grave, hein, l'histoire est vraie. Mais John Steele est revenu pendant des années.
Oui, c'est vrai. C'est
comme
vrai.
Beaucoup d'autres.
Hein. Une scène aussi à voir dans Le Jour le plus long, comme Lord Lovat. Voilà. Et c'est un très bon enchaînement, parce que comme ça, on va pouvoir écouter Iron Maiden, The Longest Day.
The Longest Day.
Voilà, qui est sorti en 2006 sur leur album Matter of Life and Death. Voilà, je vais plutôt le lire plutôt que dire une bêtise. Ouais. Bon, je ne suis pas objectif, j'adore Iron Maiden, donc je vais dire que j'aime bien. Mais évidemment, voilà, sur Le Jour le plus long, le 6 juin 1944. Voilà.
Peut-être, film de Daryl Zanuck.
Voilà, et un bouquin de Cornelius Ryan.
Et d'ailleurs, sur une phrase célèbre, ce jour sera le jour le plus long, qui est une phrase, en vérité, de Erwin Rommel.
C'est Rommel, oui.
Qui va la prononcer en inspectant les plages et en disant à ses troupes, si ce débarquement devait avoir lieu, ce sera pour vous une épreuve, il faut à tout prix les rejeter à la mer, parce que si on les rejette à la mer, on sait que derrière, on prend l'Angleterre. Et ce jour sera difficile, il faudra tenir le coup, ce sera le jour le plus long. Et c'est de là que va naître le titre du film.
Et ça l'a été, surtout quand on va chercher une paire de pompes à Berlin pour sa femme.
En antilope.
Voilà. Allez, on écoute Iron Maiden et on se retrouve après pour la suite de cette 250e de Chrysanthème sur les ondes de Radio Campus. On continue de parler avec le Jeep Club des Flandres et Jérôme des spectacles et des commémorations des 80 ans de la Libération, et notamment celle de l'Équin les 14 et 15 juin prochains. Allez, à tout de suite. We'll be right back. Eh bien non, parce que tous les mardis de 22-23h, j'écoute Chrysanthème sur Radio Campus 106,6 FM.
Ouais, bravo!
Merci, merci. Et n'oublions pas le DAB+, et c'est également en direct et en podcast sur le site www.campuslille.com.
Eh, toi aussi, oubliez de parler qu'on était sur Facebook et tout ça!
Et nous sommes de retour sur les ondes de Radio Campus Lille pour cette 250e de Chrysanthème avec l'accordéon, voilà, qui surgit comme ça, pour le fond sonore évidemment. Donc à l'instant c'était Iron Maiden avec The Longest Day, voilà, très très bon morceau pour un jour historique, évidemment là au niveau historique on peut pas mieux, la plus grosse opération aéroportée et navale de l'histoire. Rien que ça, rien que ça. Donc ce 6 juin 44, évidemment, qui est fait, dont il est fait mention dans ce spectacle, évidemment, parce qu'il y a le petit côté anglais, le petit côté allemand, ce genre de choses, évidemment. Et c'est très bien. On va pas épiloguer sur le 6 juin 44, sinon ça va être l'émission la plus longue, et, évidemment, également. Mais ce sera avec plaisir que je le ferai également, ça. Parce qu'il y a beaucoup de musique aussi à diffuser sur ce jour. Et à en parler, ce serait un bonheur également. Et donc on va pouvoir parler maintenant de ces journées à l'Équin, les 14 et 15 juin. Donc à l'image d'Attiche, il y a aussi donc un défilé, si je dis pas de bêtises.
Non,
il y a pas de défilé alors, du tout. Ah, vas-y, je te laisse détailler.
Comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, l'Équin est une ville dans laquelle on a eu l'occasion de se produire il y a quelques années et on avait fait un très beau spectacle avec voilà. Et l'Équin avait souhaité remettre le couvert comme certains l'ont déjà fait, Avelin, Falampin. Si ce n'est qu'on était un peu pris de court par les programmations qui se sont enchaînées et ni l'un ni l'autre n'avions la possibilité de renouveler l'exploit, d'autant que l'Équin, qui a quand même un peu modifié sa structure, sa géométrie et qui a augmenté son nombre d'habitants, souhaitait avoir deux représentations qui se suivaient sur deux soirs de suite. Donc c'est un peu moins facile à
produire. Sacré logistique,
ouais. Ouais, ça se fait, mais on peut le faire. Mais ça nécessitait une préparation qui faisait que... Voilà. Alors évidemment, on arrive dans une période pré-électorale. On le sait tous, hein, 2026 sera une année électorale municipale, entre autres. Et ça va se compliquer parce qu'il faut comprendre que les municipalités ne peuvent pas affecter de budget commémoratif, festif ou autre, si ce n'est sur des manifestations récurrentes. On ne pourrait pas, au titre d'une future échéance électorale, favoriser le maire qui est en poste et qui serait avantagé par une publicité en sa faveur à l'encontre de ceux qui pourraient se présenter à son encontre. Donc la loi dit, 6 mois avant, terminé. Donc on va passer in extremis sur l'Équin, mais sans la faculté de mettre en place un spectacle. Mais par contre, on va mettre en place quand même une belle unité musée à ciel ouvert, comme on l'a fait à Attiche, avec un camp entièrement aménagé. On va recevoir des scolaires tout au long de la journée du vendredi, le vendredi 12.
Vendredi 13.
13, pardon. Oui, ça, j'avais même dit que ça portait bonheur. Le vendredi 13, sachant qu'on va, voilà, on a actuellement 640 et quelques scolaires programmés. Et puis au sein du parc d'Anchemont qui est très connu à l'Équin, qui est très beau et qui, dans lequel on s'était déjà produit à l'époque d'ailleurs. Et une partie du parc va être consacrée à une partie scénique. Et tout à l'heure quand tu évoquais des scènes qui seraient données, effectivement la journée du samedi à 3 reprises, une en fin de matinée, 2 dans l'après-midi, et la journée du dimanche à 2 reprises, une en fin de matinée et une dans l'après-midi, on donnera une scène unique telle qu'on l'a déjà donnée sur Pont-à-Marc et sur Seille-les-Lannoy, qui consiste à avoir, pour ceux qui se souviennent de la scène numéro 12, la contre-attaque, où on a les civils qui vont sortir et qui vont être réattaqués par les Allemands et qui vont finir par être libérés ensuite par les Alliés qui reviennent à la charge.
Une scène impressionnante.
Voilà. On a cette scène, voilà. En gros, c'est cette scène-là qui est réadaptée, puisqu'on a les Allemands qui sont en phase de débâcle. On a les FFI qui viennent un petit peu les chatouiller et qui tombent sur une résistance allemande plus musclée que prévu. Ça se passe mal pour eux. Et puis ensuite, on a les éclaireurs américains d'un côté, britanniques de l'autre, qui viennent faire des percées à l'entrée du village et réenchaînent les combats et la fin des hostilités avec les scènes de liesse et les civils qui sortent. Voilà. Donc cette scène est reproduite à 5 reprises. C'est une formule qu'on a déjà mise en place avec le musée Verlaine à Tourcoing, qui permet d'avoir peut-être pas beaucoup de spectateurs d'un seul coup, c'est jamais plus de 300, mais à 5 reprises, des gens peuvent venir quand leur agenda le leur permet au fil du week-end, avec à côté de ça un tas de fils rouges, avec un petit bal années 40, avec des food trucks en phase avec, j'ai envie de dire, l'époque. plein de petites choses qui font que le week-end est assez agréable en fait.
Oui, ça reste encore plusieurs jours donc de commémoration.
Trois jours de commémoration.
Avec des reconstitutions. Donc il y aura des véhicules aussi également.
Tout à fait, ils sont exposés dans le parc, si ce n'est que, donc pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas matière à faire un défilé commémoratif.
Voilà, ils sont juste à l'arrêt, mais vous pourrez voir les véhicules, vous balader
autour. L'expo est complète. Voilà. Et on se fait fort, nous, comme ce n'est pas toujours le cas partout, d'avoir des véhicules accessibles pour ceux qui souhaitent y monter, faire des photos, etc.
Oui, c'est vrai que ça, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est cool important. Faire les enfants qui peuvent monter dans les jeeps et tout ça, dans les véhicules. Voilà. C'est vachement cool. Non, on ne montera pas sur le canon du char. Ne rêvez pas. Ça, c'est interdit.
Ça, c'est déjà vu.
La journée de vendredi est réservée aux scolaires, alors que celle de samedi et de dimanche pourra être appréciée par les villageois. Et la municipalité met en place
une possibilité réservation.
Une réservation pour pouvoir faire des visites guidées.
D'accord.
Donc on pourra se rapprocher de la municipalité pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir aller visiter le camp et voir tout ce qu'il y a à voir et toutes les explications qui seront données.
Donc n'hésitez pas à contacter la mairie ou la municipalité de Léquin pour pouvoir assister à l'intégralité de ces festivités des 14 et 15 juin prochain à Léquin. Donc au parc, tu as dit
le parc d'Anchemont.
Anchemont, voilà, ouais, c'est ça.
Il y a un truc, c'est que dans le camp allié, ceux qui jouent le rôle, ils s'y connaissent vraiment beaucoup. Quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai été face à un stand, il y avait un jeune homme, beaucoup plus jeune que moi, Il m'a expliqué tous les armes qu'il y avait, mais vraiment bien précisément tous les. Et comme il était très jeune, même pas 20 ans, je sais pas comment il s'appelle.
Ah non, mais c'est une histoire de passion.
C'est une histoire de passion. J'étais déjà avec quelqu'un de si jeune qui. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de si jeune qui s'intéresse à ça. Parce que c'est pas forcément évident. Et c'est vrai qu'il y a une connaissance, à chaque fois qu'on pose des questions, on va vers les gens, ils savent de quoi ils parlent, quoi, en fait.
Voilà. Mais les gens passionnés sont passionnés.
Ouais, c'est vrai.
Et alors, le problème, c'est qu'on peut très vite devenir François Pignon. Parce que quand il est dans le TGV et qu'il raconte à celui qui se trouve devant lui combien de temps il a mis pour faire la Tour Eiffel en allumette ou le Mont Pincardil, très très vite on peut devenir François Pignon.
Il faut être sûr que la personne en face soit aussi intéressée. Ça, c'est sûr et certain. Ça, on est d'accord.
Voilà, ouais. Et c'est pour ça que il faut de temps en temps qu'on se fasse rappeler à l'ordre par des gens qui n'ont peut-être pas le même degré de passion que le nôtre. Mais je pense qu'on s'y habitue avec le temps et qu'on arrive à jauger. L'éveil ou l'intérêt que porte celui qui nous pose des questions et qui entend nos commentaires. C'est vrai que c'est surprenant de voir des jeunes qui doivent pas être les derniers de leur classe en histoire, en tout cas pour cette période-là.
Mais le gars, il m'a vraiment bluffé, quoi. Il m'a expliqué toute l'historique de l'arme, tout ça.
C'est l'intérêt de refaire ce genre de reconstitution, d'exposition ça avec des associations qui sont dans la reconstitution.
Je ne me rappelle pas de son prénom malheureusement.
En tout cas, on lui rend hommage encore une fois. Parce que c'est des spécialistes qui savent de quoi ils parlent, on peut poser des questions, ils nous renseignent, ils répondent. Que ce soit au niveau technique, historique, parce que ça peut être sur les véhicules, ça peut être sur les armes, ça peut être sur des dates, ça peut être sur des détails d'uniformes. Généralement, on a les réponses. Voilà, c'est des encyclopédies vivantes de l'histoire vivante. Et donc, c'est ça. Parce que l'histoire est vivante. Si, je vous jure, l'histoire est vivante.
C'est pas le vendeur à Leclerc, quoi.
Non, c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle.
Je profite. Alors, Jean-Marc fait une petite recherche intéressante parce qu'on parlait à l'instant des visites qui étaient offertes à la population. C'est juste pour précision, parce que ceux qui seraient intéressés par la prise en charge par des guides qui vont leur apporter beaucoup d'anecdotes et beaucoup de détails sur leur exposition et sur ce qu'il faut connaître de cette tranche d'histoire, eh bien, pour information, les gens pourront s'inscrire en mairie de Léquin pour une visite. Alors, si je prends le samedi, on aura une visite à 10h et une à 14h30. Où on est pris en charge par des guides. Alors, comptez plus ou moins 1h30 pour une visite complète. Et puis, le dimanche, on retrouve une opportunité aussi d'être pris en charge pour une visite guidée à 10h30. Donc voilà, 10h et 14h30 le samedi et 10h30 le dimanche. C'est intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent... Alors, la visite autonome est toujours possible, mais la visite guidée, elle apporte ce petit panaché en plus d'anecdotes et puis de particularité de ce qui est exposé j'ai envie de dire, épluchés par leurs propriétaires et qui racontent beaucoup de choses complémentaires.
C'est l'intérêt aussi, parce qu'on peut très bien s'y connaître un peu sur l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses, mais ne pas connaître l'histoire de ce véhicule qui a peut-être une anecdote, ou comment il a été refait, ou la personne, comment elle a galéré à trouver son uniforme, ou un certain détail pour le refaire, et pourquoi c'est important qu'il soit là. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment excellent.
C'est exactement ça, t'as raison, Yann.
Bah, je suis passionné par ça.
Dans chaque histoire.
Comment ?
Il a une histoire dans chaque histoire.
Exactement. La petite histoire, c'est ce qui fait la grande histoire, mais elle est faite de plein de petites histoires, et ça, on l'oublie trop souvent.
C'est vrai.
Et c'est ce qui fait qu'elle est vivante. La boucle est bouclée. Voilà. Et je vais faire pareil. Je vais la boucler. Donc, on vous donne rendez-vous, en tout cas, les 14 et 15 juin pour le public de l'Équin et alentour pour venir visiter ces expositions, ce campement, ces véhicules et ces visites guidées et ces scénettes qui sont refaites aussi par Quentin et tout son groupe pour revivre un petit peu les 80 ans de la. Pour revivre la libération en commémorant les 80 ans de celle-ci. Parce que revivre la libération, ça va être compliqué. À moins d'avoir une DeLorean avec un convecteur temporel. Ouais. Voilà, c'est pas sûr que ce soit. Il n'y a pas ça, vous n'avez pas encore ça.
Non, alors on pourrait se pencher sur le sujet, mais il faut trouver des pièces, là aussi, c'est compliqué.
Bah, puis surtout pour le convecteur temporel, ça ne va pas être facile.
Non, mais dans ce cas-là, on s'arrange un soir d'orage. Hein.
Voilà, oui. Marc, si t'as un vrai convecteur temporel, au bout d'un moment, retrouver des véhicules d'époque, ça va être pépère.
Ouais,
à tes risques et périls, mais pépère.
C'est vrai.
Mais surtout, Yann, si on fait vraiment retour vers le futur, les fusillés, tu te fais fusiller en vrai.
Ouais, non, je ne pas fou. Ce sera pas fou. Je vais pas participer à celle-là.
Ça a permis à Doc de mettre un gilet pare-balles. Hein.
C'est vrai. C'est important. Nom de Zeus. Je vous propose d'écouter un petit reggae du Vanuatu qui s'appelle World War II, parce que j'ai quand même réussi à trouver un reggae qui vient du Vanuatu, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Parce que figurez-vous que ce groupe rend hommage aux anciens des Vanuatu qui ont participé pour la France à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il n'y a pas eu, à Vanuatu, il n'y a pas eu grand-chose, mais aux alentours, dans le Pacifique, il y a eu pas mal de choses auxquelles ils ont participé, qui se sont battus, et ça rend hommage aussi à ces anciens qui disaient, dont une des devises, en Vanuatéyétéf, dans leur langue, je vais noter, parce que je vais essayer de pas foutre en l'air leur langue quand même, et de la prononcer à peu près correctement, c'est du Malakula. Voilà, c'est du peuple Malakoulas, donc c'est la langue Sa, S-A, et donc ils rendent hommage à leurs anciens qui se sont battus à l'époque pour la Seconde Guerre mondiale. Donc en reggae, du Vanuatu. Voilà, c'est Chrysanthème, on aime bien trouver des petits trucs comme ça, complètement décalés, et c'est parti.
Omlele nambon mo salorenia omlele siwir kon Thank you.
Et nous sommes de retour sur les ondes de Radio Campus Lille dans cette 250e de Chrysanthème. Pour la fin, il nous reste 4 minutes 20 pour conclure cette émission. Donc à l'instant, c'était Highlands, un groupe de reggae du Vanuatu, voilà, qui chantait World War II, donc en 99, et qui rendait hommage à leurs anciens du Vanuatu qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on aime bien ce genre de son à Chrysanthème. Ça sort de l'ordinaire quand on a un thème comme ça, et pourtant on est en plein dedans avec respect en plus, donc c'est l'avantage. C'est l'avantage. On va parler du fond sonore, vite fait. Ça, je sais pas si ça vous parle.
On est sur une guinguette, là.
Comment ?
On est sur une guinguette, là.
Ah oui, on est sur une guinguette, mais on est sur un film français très connu.
On peut pas voir un indice ?
Ah, un indice à l'opéra, maître.
Ah, d'accord. Bon, bah, ça va, moi je l'ai. Je vous laisse deviner. Vous, c'était bien. Par contre, vous...
Vous discutez tout le temps. Je vous vois, vous discutez tout le temps.
Ouais.
C'est connu ou pas, enfin,
avec, bah, y a, dedans, il y a Guignol. Dedans, il y a Guignol, oui. Il y a un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment.
Ah,
oui. Erkapelmeister. Ah, bah, évidemment, oui, un petit coup de la grande vadrouille, voilà, parce que on a dit la bonne humeur aussi, super film. Moi, j'en pleure à chaque fois que je le vois, de toute façon, je m'en remettrai jamais. Je crois que depuis mes 7 ans, je ne m'en remets pas, de toute façon, de la grande vadrouille. T42, Big Moustache, tout ça, des grands moments.
But alors, you are not French.
But alors, you are French. Et donc, là, c'est le titre Pensez à nous deux. Voilà, et la musique a été écrite par Georges Auric. Voilà, tout simplement pour le préciser un petit peu, parce qu'on parle aussi un petit peu des gens 66, la grande vadrouille, pour le situer, Bourville de Funès, pour ceux qui étaient sur Neptune ces 50 dernières années, voilà. Au cas où.
Et avec un box-office exceptionnel. Hein.
Eh bien oui, il a été détrôné par Bienvenue chez les Ch'tis, je crois. Mais...
Alors, il me semblait que, je ne sais pas s'il n'y a pas le Titanic qui avait fait...
Moi, je parlais en termes de film français, après...
Français, oui, d'accord, okay. Mais après, il a fallu très longtemps pour le détrôner.
Ah oui, bah oui, bien sûr, mais à juste titre, à juste titre.
Bien sûr.
Bah en tout cas, il me reste à vous remercier beaucoup, en tout cas tous les trois, donc Jérôme, Jean-Marc et Quentin, d'être venus pour cette émission et d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bien voulu parler de ces journées du 14 et du 15 juin à l'Équin.
Merci à toi. Alors je vais speeder comme un malade là, mais pour information, pour ceux qui n'ont pas vu Attiche et qui voudraient voir une cinécédie de la même teneur, on se produira à Froidchapelle en Belgique, qui est dans les Ardennes, pas loin du lac de l'Oder, pour le samedi 14 septembre, me semble-t-il. Non, 13 septembre, samedi 13 septembre.
C'est ça.
Voilà, donc il y a à peu près 1200 places là aussi. Et puis un petit clin d'œil à ceux de la bande qui nous ont suivis pendant toute l'émission, parce qu'à chaque fois on fait de la pub pour toi maintenant. Je pense à. J'ai vu qu'il y avait Odile, Florine, Bertrand, Laurence, qui a été une cheville ouvrière exceptionnelle pour Attiche. Merci pour. Petit clin d'œil à vous qui nous avez suivis, et merci pour vos petits messages sympathiques pendant l'émission.
En tout cas, merci à vous encore une fois. Moi, je le dis, merci quand même d'être venu, d'avoir expliqué tout ça. N'hésitez pas à aller à l'Équin les 14 et 15 juin donc pour assister aux scènes, aux reconstitutions historiques, le camp militaire, les véhicules à voir, tout ça de la libération, évidemment. Et n'oubliez pas qu'il y a un DVD qui sort pour celle qui s'est passée à Attiche les week-ends du 8 juin. Je vais faire en gros le 8 mai dernier, où il y a le spectacle qui va sortir en DVD. Et en tout cas, si vous voulez voir ça en vrai, sur scène et le vivre et pouvoir poser des questions, n'hésitez pas, la transmission, le devoir de mémoire, ça se passe aussi les 14-15 juin à l'Équin et en septembre à Fray. Monsieur Quentin,
Froidchapelle,
voilà.
Froidchapelle. On y parle le français. C'est la Wallonie.
Voilà, c'est les meilleurs alors.
Non, mais je veux dire, c'est plus facile pour nous quand même. Hein.
Non, mais oui, évidemment. Mais sinon, je rigole, évidemment. Le but aussi de commémorer ce genre de choses, c'est qu'on continue de passer le message qu'on doit vivre tous ensemble, sans se foutre sur la tronche.
Exact.
Voilà, c'est le plus important.
Merci à ton organisation. Très content de t'avoir connu. Et bah, te connaître.
On remettra ça. Et bah, je vous salue et puis je vous dis à la prochaine. Et puis on va se quitter. On vous laisse avec le Campus Sport Club. Allez, ciao tout le monde.
Allez, longue vie Radio Campus. Ciao.
Au revoir.
Je me demande si ça me dérangerait.
Ok. C'était Chrysanthème. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission où on met ce qu'on veut autour d'un thème.
Alors à la semaine prochaine, de 22h à 23h, sur les ondes de Radio Campus 106,6.